chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. J'ai le plaisir de souhaiter à nouveau la bienvenue dans notre studio à Georges Bonnebas, historien. Dans une première émission, Georges Bonnebas nous avait parlé du vitrail du zodiaque et des représentations des paysans dans les calendriers imagés à Chartres, particulièrement riches en images. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre entretien et on va peut-être parler cette fois-ci de l'histoire de la culture matérielle. Car que vont représenter les artistes dans les images que nous voyons aujourd'hui? Évidemment, une réalité qu'ils vivent, quelque chose qu'ils connaissent bien. Donc, pour dater, comment procéder en l'absence de documents? Car Jacques Le Goff, dans l'imaginaire médiéval, a bien souligné que la tâche de l'historien consiste avant tout à dater au plus près et comment faire lorsqu'on n'a pas de support documentaire. Alors on remarque dans les images des vitraux de la cathédrale de Chartres, datées pour la plupart dans le 12e et 13e siècle, qu'il y a certains outils, certains chariots qui sont représentés avec un sens du détail, de la réalité, et certains outillages sont tellement avancés dans le temps que, Georges Bonnebas, je crois c'est vous qui avez dans un article suggéré que les Chartrains étaient peut-être les Chinois de l'Occident médiéval en raison de leur avancement technologique en certaines matières. Est-ce bien vrai?
Alors oui, si on accepte cette idée que la cathédrale de Chartres aurait été construite en 20 ou 30 ans et entièrement décorée, donc entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, alors à ce moment-là, il faut reconnaître que nous avons affaire à des images d'anticipation bien souvent, ou à l'inverse, à des images qui sont très vieilles. On a les deux extrémités. En clair, sous forme de boutade, je dirais que les Chartrains au Moyen-Âge auraient fait plus fort que Bouygues à la nouvelle mosquée de Casablanca, construite en 20 ans. C'est quand même assez peu vraisemblable. Autant le dire, il n'est pas besoin d'être spécialiste de la cathédrale pour se dire qu'il y a sans doute là quelque anomalie dans le raisonnement. Alors, les exemples sont nombreux et dans un sens comme dans l'autre. On a des représentations, vous les rappeliez, là à propos de chariots et là de chariots sculptés au porche nord. Eh bien, au porche nord, on a sculpté un chariot avec des roues à écuanteur, avec des raies à écuanteur. Pour ceux qui connaissent un peu des véhicules anciens, c'est un peu ce que l'on trouvait sur la Renault 8 Gordini il y a une trentaine d'années. Il est impossible que nous puissions avoir une date début du XIIIe siècle pour de telles sculptures.
Vous parlez dans le porche nord, au bas d'un pilier, de la représentation d'un chariot qui porte l'Arche de l'Alliance.
Voilà.
Un tout petit.
Petit, oui. Et nous avons là, très vraisemblablement, en fait, une image qui date du 15e, voire du 16e siècle. Ça n'est pas possible, ça n'est pas cohérent chronologiquement. On en a d'autres comme ça dans les vitraux. Alors, il y a une verrière haute dans la nef, offerte par les laboureurs de Nogent. Bon. Je passe sur le problème de savoir de quel Nogent il s'agit et de quel laboureur il s'agit. Mais on y a la représentation d'un palonnier à double volée. Voilà. Entre la charrue et l'attelage frontal. Ce palonnier à double volée, début du XIIIe siècle, est bien le seul, car les suivantes, il faudra attendre la deuxième moitié du XVe siècle pour les voir représentées. Et il est assez étonnant qu'il y ait un tel vide de représentation de ce type entre le début du XIIIe siècle et la seconde moitié du XVe siècle. La date habituellement attribuée à la Verrière laisse au minimum supposer qu'on ait affaire là à une très forte restauration tardive de ce vitrail. Mais à l'inverse, nous avons aussi des images qui sont très probablement bien plus anciennes qu'on ne le pense. Et je reviendrai sur les représentations de calendriers italiens. Représentation de calendrier italien, chronologiquement, on le sait, les calendriers italiens sont à la mode, si je puis m'exprimer ainsi, au XIIe siècle et non pas au XIIIe siècle. Et on sera d'accord pour dire que le taux d'ivoire sculpté du musée du Bargello provenant de l'abbaye de Saint-Père est bien du XIIe siècle, on sera d'accord pour dire que la colonnette sculptée cachée entre les deux statues de colonne est bien du XIIe siècle.
Au portail royal à Chartres.
Donc au portail royal. Maintenant, qu'en est-il du vitrail du Zodiac ?
Alors, le vitrail du Zodiac, est-ce qu'on y revient dessus ? Ça serait peut-être une bonne idée, parce qu'on n'a peut-être pas épuisé les sujets.
Ah ben non, alors, sûrement pas. Et dans l'article que j'avais écrit dans le temps à propos des représentations des paysans, j'avais indiqué en conclusion qu'il fallait regarder dans la partie inférieure du vitrail. On y a là toutes sortes de signes héraldiques et écrits. Puisqu'il y a une inscription peinte qui mériterait d'être révisée. Alors, si elle doit être révisée, c'est aussi parce que, malheureusement, la plupart des commentateurs s'appuient un peu trop sur les lectures d'inscriptions qu'avait fait jadis le chanoine de la Porte. Et là, je suis désolé d'avoir à le rappeler, le chanoine de la Porte était fâché avec la lecture des inscriptions.
Il était fâché avec la langue latine. Certains historiens l'ont effectivement
égratigné, oui.
Mais on peut lui trouver des excuses parce que c'est seulement à la grâce des restaurations que l'on a pu redécouvrir beaucoup de détails. Pensons tout simplement au boulanger au bas du vitrail des apôtres où on va constater que le boulanger qui est en train de pétrir la pâte a dans les mains le visage du Christ.
Le visage du Christ.
Ce qu'on ignorait complètement. Après une petite pause musicale, on va effectivement revenir sur ce sujet passionnant.
Nicolaus Pontifex, nostro mestre fugio,
clericis sanctaris, in semper remedio,
medicorum est amator,
laicorum consolator,
omnionque confortator in omnia gustia.
Nicolae, Nicolae, breve nomis Gaudia,
carta sexta filia.
Nicolae, Nicolae, breve nobis gaudia.
Suscitavi credico, sos invidia.
Nous sommes à Radio Grand Ciel avec Georges Bonneba, historien dans notre studio. Et nous parlions du vitrail du Zodiac qui montre en sa partie basse la représentation d'un chevalier avec ses armoiries.
Oui, cette représentation-là est accompagnée d'une inscription en dessous sur le sol, ce qui est censé représenter le sol. En fait, on a deux représentations de chevaliers, l'une dans le vitrail du Zodiac et l'autre à peu près semblable dans la verrière voisine, la vie de la Vierge. Et ces représentations, elles contiennent d'abord des signes héraldiques. Il y a Gonfanon d'une part et il y a un écu. L'un comme l'autre sont armoriés. De quoi s'agit-il ? Il s'agit donc d'un blason qui, sur un fond bleu, est barré de blanc, typiquement. Eh ben, ce blason est celui des comtes de Blois et de Chartres au tout début du grand lignage des Thibaudiens. C'est-à-dire qu'on ne peut l'attribuer qu'à deux personnages, Thibaud IV, dit Thibaud IV le Grand, et son fils Thibaud V, dit aussi Thibaud le Bon. Voilà. Si nous étions en présence d'une verrière du début du XIIIe siècle, il y aurait forcément, pour les comtes de Blois de cette époque, eh bien, la brisure, hein, telle qu'on peut la voir d'ailleurs dans le chœur, dans un des vitraux du chœur de la cathédrale. Voilà, la brisure avec les fleurs de lys, rappelant donc leur alliance avec la famille capétienne. Alors, est-ce à dire que nous aurions affaire, par exemple, à une erreur ou à un anachronisme volontaire de la part des commanditaires ? Oh, très certainement pas, parce qu'il y a en dessous, donc, je le disais tout à l'heure, une inscription. Et cette inscription, eh bien, il convient de la restituer tout à fait convenablement, contrairement à ce qui avait été fait antérieurement. Que dit-elle ? Je m'excuse de citer le texte latin, mais intégralement, c'est important. En restituant évidemment les abréviations qui y figurent. Voici le texte latin. Comes Theobaldus, dat hoc, v pour valet, sancto Petro, winerus, ad Preces comitis blesensis, et non pas perticensis comme avait cru pouvoir le lire le chanoine de la porte. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en bon français du texte suivant, le comte Thibaud, sous-entendu le comte Thibaud V, donne ce vignoble à Saint-Père en Valais, pour les prières du comte de Blois. Voilà ce que dit. Alors, quel comte de Blois ? Est-on sûr qu'il s'agit là de son père, Thibaud IV ? Mais oui, forcément, parce que le texte est orthographié de la façon dont l'exigeait le comte Thibaud IV. Normalement, quand on écrit en latin, tous les clercs le faisaient à cette époque, blesensis, donc pour Blois, on l'orthographie B-L-E. Le comte de Blois, Thibaud IV, lui exigeait une graphie tout à fait particulière, B-L-A-I, et non pas B-L-E. Et pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'elle renvoyait à l'un de ses saints préférés, Saint Blaise. Le fait a été mis en évidence il y a déjà un bon moment par Michel Paris, qui avait travaillé sur la chancellerie des comtes de Champagne. C'est-à-dire que nous sommes ici en présence d'un texte qui a été par ailleurs publié, parce que ça n'est qu'un résumé qui permet de dater l'événement auquel on fait référence. Ce texte a été publié au cartulaire de l'abbaye de Saint-Père, évidemment, puisqu'il est question d'elle là-dedans. Il s'agit de la donation à l'abbaye de Saint-Père en Valais d'un grand vignoble situé au Coudray, donation qui a été effectuée dans l'année 1151 ou 1152. Et d'une donation un peu particulière, car la donation, en fait, est réservée. Elle est réservée à la léproserie du Grand Beaulieu, à l'usage de la léproserie du Grand Beaulieu. Ce vignoble Évidemment, ben maintenant, on doit le prendre en compte avec les images qui figurent dans la verrière voisine, où l'on voit une nouvelle fois des vignerons tailler la vigne, mais on doit aussi le prendre en compte avec la verrière précédente, où l'on voit donc la représentation des noces de Cana.
Hein, où l'eau a été changée en vin.
Vin, évidemment. Hein, et où on voit... encore auparavant, la verrière de Saint-Antoine avec la représentation des poissonniers.
Alors, par contre, on est en dehors du vignoble.
Là, on est en dehors du vignoble, mais en fait, on n'est pas si loin que cela, car ici, les verrières racontent encore une autre histoire, et une histoire qui date du milieu du XIIe siècle, et non pas du début du XIIIe. Nous avons ici quelque chose de tout à fait particulier, la léproserie du Grand Beaulieu, qui était installée donc au Coudray et qui a été partiellement fouillée, a donc été placée sous la tutelle des moines de l'abbaye de Saint-Père à une date qu'on ne peut pas déterminer avec certitude. Et elle a bénéficié de l'appui et de la grande générosité de Thibaut IV. Nous avons de nombreux témoignages à ce sujet. Et une légende chartraine raconte même que le comte Thibaut IV serait allé mourir au milieu de ses chers lépreux. Que vient faire saint Antoine là-dedans ? À proximité. On comprend bien pour les noces de Cana, hein. Bon, mais Saint-Antoine et les poissonniers. Mais oui, Saint-Antoine, c'est aussi, entre autres, autre chose que l'histoire de son cochon, Saint-Antoine, c'est aussi celui par lequel cette expérience spirituelle particulière que furent des ordres charitables consacrés spécialement aux lépreux, a commencé. Hein? Le premier ordre charitable qui a été fondé au début du XIIe siècle, c'est l'ordre des Antonins du Viennois. Et les Antonins du Viennois ont initié une forme d'organisation particulière et... Si on trouve au bas de la verrière de Saint-Antoine la représentation des poissonniers, c'est tout simplement parce que ici à Chartres, les lépreux du Grand Beaulieu ont reçu aussi une grande donation, une véritable rente, mais cette fois-ci en poisson, en hareng. Ils devaient se faire livrer sur les pêcheries de Rouen du comte Galerand de Melun, 15 000 harengs par an.
Pour digérer tout ça, une petite pause musicale.
Vierge Marie.
Cher Georges Bonneba, vous nous parliez de plusieurs milliers de harengs. Quel rapport avec les vitraux ?
Ah, c'est que ce vitraux, ben, il nous raconte des événements d'importance pour les contemporains, et seulement pour les contemporains, hein. Offrir 15 000 harengs, c'est pas, ça n'est pas digne d'intérêt 50 ans plus tard, ou 60 ans, ou 70 ans plus tard. Des donations, il y en a partout, et nos cartulaires conservent le témoignage de très nombreuses donations de ce genre un peu partout dans l'Occident médiéval. Non, évidemment. Évidemment, la verrière ne peut être que du milieu du XIIe siècle, c'est-à-dire vraisemblablement, on peut estimer aux alentours de 1152-1153, c'est-à-dire peu après ces deux grandes donations en faveur de la léproserie du Grand Beaulieu, sous le contrôle cependant de l'abbaye de Saint-Père. Toujours. Et il ne faut pas s'en étonner, car c'est un des moines de Saint-Père qui bénéficiait, en tant que prêtre par ailleurs, d'une double prébende à la cathédrale de Chartres, car il était aussi le fournisseur de l'eau bénite à la cathédrale de Chartres. Il faut revenir, malgré tout, à cette affaire de lépreux. Ce serait bien mieux si on pouvait les voir, eux aussi, dans les vitraux.
Oui, mais comment représenter un lépreux ? On sait qu'il y avait la crécelle pour chasser les gens quand ils se promenaient dans les rues. Mais quel autre moyen de les distinguer, effectivement ?
Oui, le moyen traditionnel dans l'iconographie, c'est la représentation avec la crécelle. On en connaît un autre moyen, c'est celle de les représenter avec le visage tout vérolé, couvert de pustules. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de parler de la lèpre proprement dit, mais de la léproserie du Grand Beaulieu. Et là, justement, eh bien, ils sont bien présents dans le vitrail. On les trouve d'ailleurs dans d'autres verrières que celles du zodiaque. Comment peut-on les reconnaître ? Eh bien, tout à fait aisément, car on dispose d'une confirmation des statuts de la léproserie du Grand Beaulieu. Et cette confirmation, qui est vraisemblablement datable du début des années 1190, peut-être même un peu avant, elle nous donne des indications sur le costume que doivent porter les deux catégories de membres de cet ordre charitable tout spécifique. Les frères saints, c'est-à-dire les soignants, devaient porter un costume, dit le texte latin, des ronceto, une sorte de roux rouge, tandis que les frères malades, eux, devaient porter un vêtement ciné coloré, sans couleur. Comment traduire cela concrètement à cette époque ? Bah, tout simplement avec une représentation d'un homme en blanc et une représentation d'un homme en rouge. Or, précisément, c'est ce que nous voyons en bas de la verrière du zodiaque. Hein ? Mais ce qui est le plus intéressant, évidemment, là, c'est que nous avons aussi, dans l'autre partie de l'image où on voit cette figuration, eh bien, un élément que l'archéologie nous confirme. On y voit en effet non pas la corporation des sonneurs de cloches, comme on lit de temps en temps, mais tout simplement un homme vêtu de rouge, c'est-à-dire un frère saint qui sonne en dessous donc d'une arcade, et il ne faut pas prendre cela pour un remplissage de l'image. Non, il s'agit bien d'une réalité, c'est celle d'un mur clocher avec un portail au sommet duquel se trouvait une cloche et que l'on sonnait pour prévenir de l'entrée de tel ou tel visiteur. Car à cette époque, n'imaginons surtout pas qu'il y avait derrière ce mur clocher des bâtiments. Non, c'est pas du tout ce que nous racontent les textes fiables qui nous parlent de la charité de Thibaut IV le Grand à l'égard des lépreux du Grand Beaulieu. Ils étaient constitués en groupements d'ermites. Chacun d'entre eux avait sa cabane. Ils avaient une chapelle, et évidemment sous le vocable de Marie-Madeleine, hein, tandis que par ailleurs, dans la nouvelle paroisse du Coudray, là où il y a eu donation du grand vignoble, eh bien, on a installé le vocable de Saint-Julien, Saint-Julien l'Hospitalier, évidemment, bien connu, hein, pour s'être dévoué lui aussi en faveur des lépreux. Et on retrouve encore aujourd'hui un élément architectural, hein, l'archéologie vient aussi à notre secours, ça a été très bien restauré, à Thimère, près de Châteauneuf, en Thimerais, là où était installée la léproserie de Thimère, on retrouve ce mur clocher avec le portail. Il est là, bien en place, et la restauration qui en a été faite est de très bon aloi.
Donc on voit que les vitraux nous présentent des choses qui étaient bien connues à cette époque-là, et nous ne pouvons comprendre ces images que si effectivement nous avons une profonde connaissance de cette réalité. Bah, sinon, nous passons à côté de beaucoup de choses.
Ah bah, sinon, on passe, effectivement. On tombe, je dirais, plutôt dans l'anachronisme. Hein. Moi, mon métier, c'est l'histoire, et je n'ai pas à me départir de cette attitude. D'autant plus que là, en l'occurrence, eh bien, concernant les lépreux, nous avons un concile, le concile de Latran III de 1170, qui a mis un terme à cette expérience particulière de ces ordres de lépreux organisés conjointement avec les laïcs, et que à cette époque, eh bien, le grand ordonnateur de la législation anti-lépreuse, du moins dans la forme ancienne, c'est celui qui va monter sur le trône épiscopal de Chartres, c'est celui que l'on connaît sous le nom de Pierre de Celles. Il est fondamentalement l'ordonnateur d'une remise en ordre. Et cette remise en ordre, il est peut-être vrai qu'elle était rendue nécessaire. Du moins, si on accorde un peu de crédit aux méchantes rumeurs, hein, qui couraient sur ces léproseries. Ces léproseries, qui mettons ? Ben, on n'est pas bien sûr qu'ils aient été tous lépreux, et en tout cas les fouilles de cimetières de lépreux n'indiquent pas à l'heure actuelle en France, mais ni même en Allemagne ou en Angleterre ou en Italie, que les malades aient été atteints de la lèpre lépromateuse, mais d'un mal plus général que l'on appelle le feu sacré ou mal des ardents ou mal de la Vierge, enfin bon, toutes sortes de choses sur lesquelles je ne peux pas m'étendre. Et c'est dans ces léproseries, on ne connaissait qu'un seul moyen de se soigner, la saignée. La saignée, c'est-à-dire que au moins une fois par mois, on saignait tous les malades. Voilà. Mais on le faisait aussi dans les abbayes. C'est cela figure d'ailleurs dans les calendriers des moines. Hein, ça s'appelle les jours égyptiaques.
Sur ces paroles fort intéressantes car inconnues du grand public, nous allons malheureusement déjà terminer notre émission qui était passionnante, et je crois que Georges Bonneba, il va falloir approfondir tout ce que nous venons d'entendre. Chers auditeurs, plongez-vous dans les manuscrits du Moyen-Âge pour une meilleure compréhension des vitraux à la cathédrale de Chartres, qui nous recèle encore bien de secrets. Donc bonne journée et au revoir.
Regardez Jésus la flori, qui ôte le chapelle tout la russe, qui suit la chef lini fugacis, parmi la face
qui ôte les siens clos.